La pause maternelle. Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur Macalane, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Cette émission est destinée aux mamans pour parler sans tabou de sujets en lien avec la maternité qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de leur permettre de témoigner de leur vécu. Chaque mois, nous recevons le témoignage d'une maman en direct ou de manière anonyme et nous échangeons avec elle autour de son expérience. Moi, je suis Elodie, sous le nom de Doucela, et je suis accompagnée de Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Laissons Naissance. Salut Lucille, comment tu vas ?
Salut Elodie, ça va super bien, et toi ?
Bah écoute, ça va, on a un peu de soleil, donc ça fait du bien avec ce froid de
oui,
l'hiver.
Oui, c'est même assez étonnant, mais bon, je ne vais pas refaire comme la première émission sur l'hiver, ouais, je vais essayer d'éviter ça.
Ouais, on ne va pas faire trop de prométhéo non plus. Alors aujourd'hui, nous recevons Audrey, qui a souhaité venir témoigner au micro de la pause maternelle. Bonjour Audrey, comment tu vas ?
Bonjour Elodie, ça va, merci.
Bon bah super, et bah écoute, voilà, on t'accueille, on va t'écouter pour que tu nous partages un peu ton expérience et ce que tu as pu vivre à l'arrivée de ton premier bébé. Vas-y, si tu veux nous raconter un petit peu.
Bah déjà merci. Moi j'ai un petit garçon qui a actuellement 3 ans et demi, un petit garçon qui était très très attendu pour ma part. Je suis tombée enceinte très rapidement. Et malheureusement, j'ai très vite désenchanté aussi dès la grossesse, parce que du coup, j'ai été très, très, très malade très rapidement. En une semaine, j'avais déjà perdu 5 kilos, donc impossible de m'alimenter. Et du coup, ça m'a suivi toute la grossesse pendant 9 mois. J'ai eu de la chance d'avoir une sage-femme qui était quand même très à l'écoute, donc qui a pu me mettre sous médicaments et m'aider à pouvoir m'alimenter et de ne pas être hospitalisée. Ça, c'était quand même super chouette. Mais ouais, la grossesse, très, très compliquée. Et j'avais également énormément d'angoisse. Vraiment, l'angoisse de perdre, qui était vraiment très, très présente et vraiment handicapante, parce que j'étais au point de prendre la voiture. Je faisais des crises d'angoisse en me disant que j'allais perdre mon bébé. C'était vraiment très, très intense. Donc, grossesse, finalement, qui s'est bien passée de point de vue... J'ai pas eu de complications.
Ouais, d'un point de vue médical.
Mais c'était très compliqué pour moi, en tout cas, de vivre cette grossesse. Donc, clairement, c'était pas ma meilleure expérience.
Ok. Et est-ce que tu as pu savoir un petit peu d'où venaient ces angoisses de perdre ton bébé dès le début, même à la moindre. Dès que tu prenais la route ou au moindre fait et geste, pardon.
Je pense déjà le fait que je l'ai beaucoup attendu. Donc forcément, il y a l'angoisse de se dire bah, si je fais une fausse couche, c'est quand même quelque chose qui est malheureusement présent chez beaucoup de femmes. Et j'ai eu beaucoup de fausses couches autour de moi aussi, des bébés qui malheureusement sont nés décédés, etc. Donc okay. Ça a bien fait cogiter.
Oui, tu m'étonnes.
Les expériences autour de moi, ouais.
Ok, ouais, donc ça explique pas mal un peu ton ressenti, toutes ces angoisses.
Ouais, mais ma sage-femme m'a fait des séances d'acupuncture, puisqu'elle en pratiquait en parallèle, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée pour le coup.
Ok.
Je pense qu'au bout de 2 séances, ça a beaucoup apaisé mes angoisses.
D'accord. C'est vrai que l'acupuncture, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, pour aider durant la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Mais c'est un outil qui est vraiment pas mal et qui peut agir sur énormément de choses. Ah oui. Ils ont énormément de protocoles sur les reflux pendant la grossesse, sur pour aider l'accouchement, pour accélérer l'accouchement, pour se remettre, pour l'allaitement.
Pour faciliter la sortie du placenta aussi. Moi, ouais. Je l'ai eu 2 fois et c'est ultra efficace, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, je sais que j'ai des patientes aussi qui l'utilisent, hein, qui ont pu faire demande d'acupuncture pendant le travail aussi,
oui.
Accompagnées des vocalisations. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'était pour le coup très efficace pour elles durant leur travail. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas autant. Et pourtant, il y a beaucoup de sages-femmes qui le font, il me semble.
De plus en plus. Et puis, à la maternité de Glézé, donc là où la radio, la région où la radio elle est située, il y a la maternité de Glézé pas loin. Ils ont, alors à ma connaissance, ils ont 2 sages-femmes qui sont formées à l'acupuncture et on peut demander en salle de naissance à ce qu'elles viennent faire une séance d'acupuncture et ça aide énormément. Moi, pour ma première, je sais que le travail, j'ai été déclenchée, le travail ne voulait pas se mettre en route. Et en fait, j'ai eu une séance d'acupuncture. Alors, je dis pas qu'il y a que l'acupuncture qui a fait que, mais voilà, je pense que ça a aidé à ce que le travail se mette en route aussi.
Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur non plus d'utiliser le fait que si ça nous a aidé à un moment donné et que oui, ça peut aider grandement. Je pense que faut pas non plus être frileux. Alors il y a ces croyances aussi, parce que je pense que c'est un terme de croyance, de se dire que tout ce qui est en dehors du médical est peut-être moins efficace. Le médical est très efficace, oui. On le sait, c'est certain, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a d'autres choses qui ont été utilisées, qui sont encore utilisées, qui ne sont pas utilisées que sous forme de placebo. Je pense qu'il y a l'effet placebo qui marche aussi avec l'acupression, mais pas que, qu'il y a vraiment des choses, des méridiens qui... Voilà, je veux dire, si la médecine chinoise l'utilise encore, et on dit bien médecine chinoise, c'est qu'il y a raison de l'utiliser. Donc... voilà, on va pas se. Faut pas... Je pense qu'il faut pas se mettre martel en tête avec ce genre de choses. Il faut juste voir si c'est quelque chose qui est utilisé, réglementé. Comment est-ce que c'est utilisé et est-ce que véritablement en nombre, en qualité et en quantité, ça aide les personnes en fait.
Oui, tout à fait. Oui. Et du coup, on va te redonner la parole parce que oui. on parle beaucoup avec Lucine.
Mais
hein.
ce que tu as eu, Audrey, sur tout au long de ta grossesse, c'était ce qu'on appelle l'hyperemnèse gravidique, c'est ça ?
Alors, ça n'a pas été diagnostiqué comme ça, mais je pense que ça s'en approchait en tout cas, parce qu'effectivement, c'était vraiment tout au long de la journée et ça arrivait.
Puis on t'a quand même parlé d'hospitalisation, donc c'est pas pour rien non plus.
C'est que j'arrivais vraiment pas à m'alimenter ni à boire. Enfin, vraiment, 5 kilos en une semaine, c'est énorme.
C'est énorme.
De perdre 5 kilos en une semaine.
On te laisse nous raconter un peu la suite ?
Oui, donc, après, sur la grossesse, c'était vraiment les seuls soucis forts, mais c'était les seuls soucis que j'ai rencontrés. Et après, du coup, mon bébé est né. Donc là, pour le coup, c'était, je pense, comme beaucoup de mamans, merveilleux la rencontre. On oublie du coup tout ce qui s'est passé pendant 9 mois. On dit enfin, il est là, il est en bonne santé, c'est bien. Mais malheureusement, j'ai encore désenchanté, puisque mon bébé a eu un RGO, donc les reflux gastro-œsophagiens, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Oui, exactement.
Et là, pour le coup, il y a vraiment une errance médicale énorme. Donc, on était clairement face à nous-mêmes avec notre bébé qui souffrait et les médecins qui minimisaient malheureusement ce qu'on vivait. Quand on leur disait que notre bébé, il pleurait, il hurlait, il était inconsolable la nuit, enfin tout le temps. Vraiment ce manque de soutien aussi, parce que l'entourage, ils ne connaissent pas forcément non plus les anciennes générations, etc.
Mais justement, est-ce que tu veux bien nous expliquer ?
Face à notre bébé, nous, on le voyait souffrir et en fait, on ne savait pas quoi faire. On était vraiment... dépassé avec en plus le postpartum, la fatigue du postpartum, les questions quand on devient parent parce que c'était un premier.
Ça aide pas,
très compliqué.
Et est-ce que tu veux bien nous expliquer en fait en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est exactement le RGO, s'il te plaît ?
En fait, c'est le bébé qui a énormément de reflux. Alors nous, c'était un reflux interne, donc ça ressortait pas forcément, mais on le voyait beaucoup mâchonner, il avait énormément le hoquet, il toussait, il s'étouffait quand il tétait, quand il dormait. C'est vraiment des... En fait, c'est tout le temps des reflux qui reviennent tout au long de la journée, la nuit. La position allongée, du coup, est très, très compliquée.
Et en cas, je me permets de te couper, en cas de reflux interne, c'est encore plus complexe parce qu'encore un reflux externe où il y a des rejets de lait maternel ou de lait artificiel, pardon. C'est vrai que les médecins, du coup, pour eux, ils ne peuvent pas passer à côté. En général. Ouais. Mais quand c'est interne, c'est vrai que les médecins ont beaucoup plus de mal à entendre qu'il peut y avoir un reflux. Et le reflux interne est souvent encore très peu connu, en fait.
C'est vrai que quand ils demandent est-ce qu'il a beaucoup de reflux, est-ce qu'il vomit, est-ce qu'il y a des jets, etc., c'est non. Mais nous, on a les signes qui sont là quand même. On le voit qu'il mâchonne toute la journée, qu'il a la langue blanche. Il y avait plein de signes.
Qui se tortille. Puis ça doit sûrement le brûler, en fait, aussi à l'intérieur, en fait, parce que. Faut quand même y penser. Même nous, quand on a des espèces de crises comme ça, gastriques, à un moment donné, ça brûle, quoi.
Ouais. Donc, moi, j'avais fait pas mal de recherches en parallèle, parce que je connaissais deux noms quand même. Et c'est là où nous, on a essayé de creuser un peu ce qui pouvait aider autour, les positions d'allaitement, ce qu'on pouvait mettre en place, ostéo, enfin, toutes les médecines douces autour, pour soulager un petit peu, voir les origines, parce qu'il y en a plein. Et du coup, on a un peu composé ça, avec ça, nous, avec tout ce qu'on trouvait et ce qu'on arrivait à mettre en place. Parce que pour le coup, il y avait vraiment une errance. Ils nous donnent des médicaments, mais malheureusement, ça ne traite pas la cause du RGO. Donc ça permettait de l'apaiser, mais c'était compliqué quand même.
Et est-ce que vous avez trouvé la cause du RGO ?
Pardon ?
Est-ce que vous avez trouvé la cause du RGO ?
Alors nous, on a fait des séances de chiropraxie. Donc du coup, il avait des tensions au niveau des cervicales et ça a beaucoup aidé. Et en parallèle, on a beaucoup travaillé tout ce qui est sphère psycho-émotionnelle parce que le pauvre, il a baigné pendant la grossesse avec énormément d'angoisse. Donc c'est des choses qui l'ont beaucoup, beaucoup aidé.
D'accord.
Et après, on a vu aussi qu'il avait une intolérance protéine de lait de vache.
D'accord.
Et c'était un bébé allaité ?
Oui.
Ouais,
oui, okay.
Allaité
encore aujourd'hui.
Ok. C'est souvent hein, sur des bébés allaités qui ont des RGO. Moi, c'est souvent ce que j'explique aux mamans, c'est que un bébé allaité, il n'est pas censé avoir de problèmes digestifs, que ce soit des RGO, des coliques ou autres, et que souvent il y a une raison. Alors, tout dépend. Hein, si c'est un reflux de temps en temps, pas trop prononcé encore, ça peut arriver. Mais si c'est quelque chose qui impacte le quotidien, pour moi, c'est qu'il y a une cause derrière et qu'il faut trouver la cause. Et souvent, la cause, c'est l'alimentation de la maman. Non pas que les mamans mangent des choses qu'elles font exprès ou je sais quoi, mais qu'il y a des choses dans leur alimentation qui font que bébé, il ne digère pas parce que tout passe dans le lait, faut pas l'oublier. Et souvent, on va déjà creuser du côté des protéines de lait animal, parce que c'est souvent ce qui ressort le plus. Et il commence aussi beaucoup à y avoir le gluten et les œufs. Donc voilà, trois pistes à explorer pour les mamans allaitantes qui ont des bébés avec des RGO.
C'est quand même assez surprenant, en fait, qu'il y ait toutes ces difficultés au niveau de l'alimentation, que ce soit le gluten, que ce soit le lait de vache ou ce genre de choses. Parce que, dans d'autres peuplades, ça fait partie de la nourriture normal et assimiler le lait de vache et compagnie. Donc ça correspond aussi à notre manière d'assimiler les choses dans l'endroit où on vit, en fait. Donc qu'est-ce qui fait que du coup, à un moment donné, je te pose la question à toi, parce que moi je m'occupe de la sphère psy, hein, je vais pas m'occuper de vos trucs d'estomac, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il peut y avoir cette intolérance, en fait, à un moment donné?
Je pense que c'est la qualité des aliments qu'on mange, la qualité de la matière première, enfin le lait, les vaches, elles sont nourries avec des céréales, elles sont presque plus au pré, donc leur alimentation a été modifiée avec des céréales, des compléments et tout ça. Le blé, c'est du blé modifié aussi, et je pense que c'est tellement modifié que c'est de moins en moins digeste.
Alors, je reviens là-dessus de pourquoi est-ce que je pose la question spécifiquement à Élodie. C'est parce que Élodie s'occupait d'animaux avant. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Bon, elle est passée doula, c'est toujours des animaux, mais humains.
Oui.
Et du coup, voilà, c'est pour ça que je lui pose la question et que je me mets en retrait là-dessus, parce que ça fait partie de son champ de compétences et c'est ce qui fait qu'après, ça l'a amené à aller au-delà des girafes, des gorilles et des éléphants et autres, venir s'occuper aussi des femmes et de leurs bébés. Voilà, de leur bébé humain.
Et puis aussi, je le vois moi personnellement, parce que je suis aussi touchée par des enfants qui sont ce qu'on appelle APLV, donc allergiques à la protéine de lait, et au gluten. Et moi aujourd'hui, mes garçons qui sont intolérants au gluten, ils mangent du pain de blé ancien, auquel ils réagissent très très bien. Donc je pense que c'est pas pour rien aussi, c'est que voilà, tout est modifié, les animaux sont mal nourris. Pas dans toutes les fermes, hein. On va pas mettre toutes les fermes dans le même panier, hein. Mais toutes les fermes industrialisées, souvent, ça leur coûte moins cher de les nourrir aux céréales et que de les mettre au pré pour avoir de la bonne nourriture. Donc voilà.
Donc ça, c'était la question que je posais, parce que pour des parents comme Audrey, c'est pas dans leur tête. C'est pas quelque chose qu'ils inventent, ou parce que là, au 21e siècle, les parents se disent que leurs enfants vont être allergiques ou vont avoir certaines choses. C'est comme nous, avec les diagnostics. À un moment donné, oui, il y a beaucoup de diagnostics, mais parce que il y a plus de possibilités et d'accès, et on connaît mieux en fait les possibilités de diagnostic. Donc du coup, je pense que c'est pareil pour l'alimentation, et ce qui fait qu'on n'est pas plus sensible, mais en tout cas plus aguerri, et on regarde un peu plus ce qui se passe, en fait.
Exactement.
D'accord. Ok. Je voulais juste faire ce petit point là pour déjà aussi moi pour ma culture personnelle.
Ah, merci. C'est important. T'as bien raison. on continue de t'écouter, Audrey.
C'est hyper important ce que tu as dit, Lucie, puisque justement, il y a ce côté où certains proches ou certains professionnels vont te faire croire justement que c'est dans ta tête. que tu es en train d'inventer un truc ou que tu exagères. Et ce côté-là, c'est très, très dur, justement, en tant que parent, parce que ben, nous, on est là avec notre enfant, on le voit. Mmh. Et derrière, on n'a pas de soutien. Et, enfin, on sait qu'en postpartum, le soutien, c'est essentiel pour s'en sortir, surtout dans des moments comme ça. Et je pense que c'était le plus dur, finalement, aussi. C'est de ce manque de soutien et de considération, de se dire, bah, OK, c'est pas toi qui exagères, c'est que ton bébé, il a vraiment quelque chose. Et ben voilà, je sais que c'est dur. Enfin, juste poser des mots simples, des fois, je pense que ça aurait aidé aussi.
Oui, puis c'est le sentiment de solitude aussi, hein, qui s'accroît aussi pendant le postpartum, parce que il y a quand même une chose titanesque qui vient de se passer, ça, c'est de faire naître
des choses.
Voilà, ça bouleverse.
C'est des mots qui sont durs quand on est déjà dans le... Quand on est déjà dans le truc, c'est des mots qui sont durs.
Oui. Et puis, rappelons-le, et on ne le dira jamais assez, une maman, elle a aussi besoin juste d'une écoute, des fois. Elle n'a pas besoin de conseils. Des fois, une maman, elle aura juste besoin de décharger sans recevoir en retour des conseils. Et si jamais vous avez envie de donner un conseil à une maman, demandez-lui simplement, est-ce que là, tu me parles pour recevoir de l'écoute ou est-ce que tu as besoin que je te donne des conseils ? Ça peut énormément aider aussi. Mais
là, c'est vrai que ça touche aussi à quelque chose de très particulier qui a beaucoup changé dans notre société. C'est notre capacité à écouter, être dans une écoute véritablement active. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai cette image, moi, des parlementaires. Tu vois, lorsque...
Qui ne s'écoutent pas.
Oui, mais lorsque tu vois, par exemple, le discours de Simone Veil, tu vois, sur l'avortement et tout ça, et que tu vois les gens... écouter véritablement. Bon, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'autres sources de distraction, il n'y a pas de possibilité d'aller prendre sa dopamine ailleurs, juste on écoute. Et c'est une manière qui a été enseignée, en fait, à un moment donné, c'est une éducation aussi, qui, je pense, s'est perdue avec beaucoup d'avancées technologiques et qui fait qu'aujourd'hui, on écoute de moins en moins et on est beaucoup plus dans la réactivité. Donc, si une personne va dire quelque chose, boum, je réagis tout de suite, à chaud, à froid, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et on a toujours cette tendance, hein, on va mettre un j'aime, on va mettre un truc, mais ne serait-ce que de le dire verbalement, on va valider ou invalider ce que va dire la personne sans aller jusqu'au bout de ce qu'elle a réellement envie de dire. Ce qui fait que quand on va voir des documentaires de Lina, qui sont assez vieux, on va voir les personnes prendre le temps de s'écouter.
Ouais.
Et lorsque, du coup, on écoute aujourd'hui des choses, on prend plus le temps. Faut que ça aille vite, faut que tchap-tchap, faut que ça aille, quoi. Et je pense que ça touche aussi à ça. Je pense que le fait que les mamans soient un peu moins entendues, bon, il y a d'autres paramètres, mais il y a aussi cette réactivité de vouloir tout de suite donner un conseil, de vouloir tout de suite agir, parce que y a un problème aussi d'immaturité émotionnelle,
oui,
quoi.
Oui, clairement. Je vous propose une petite pause musicale et puis on retrouve Audrey juste après. Nous sommes de retour sur la pause maternelle avec Audrey qui est venue nous faire part de son expérience dans la maternité. On t'écoute, Audrey, si tu veux continuer.
Oui, du coup, cette histoire de RGO et de... Bah, on parlait surtout de la solitude, du coup, qu'on ressent autour des incompréhensions. Et en même temps, bah, on ne peut pas en vouloir à notre entourage parce que bah, s'ils n'ont jamais connu ça, ça reste quelque chose de nouveau. Hein. Et nous, en plus, on est loin de notre famille, parce qu'on a déménagé dans le sud, et toute notre famille est en région parisienne. Donc, pour le coup, on était vraiment isolés, puisqu'on est arrivé dans le sud juste avant que je tombe enceinte, donc on n'a pas forcément fait beaucoup de rencontres avant, etc. Donc, même en termes de relais pour juste garder bébé un petit peu ou quoi, c'était très compliqué. Donc moralement, cette naissance, bon, à côté, c'était très bien. J'étais très contente d'avoir mon fils et qu'il soit finalement quand même en bonne santé malgré
tout. Oui, mais Audrey,
dis ce que tu as besoin de dire, Audrey, et c'est pas grave, ça fait pas de toi une mauvaise maman, juste de dire ce que tu ressens. Ça n'empêchera pas le fait.
J'ai l'impression de jamais voir le bout du tunnel. Vraiment.
Voilà.
Juste. Ça a duré pendant 16 mois avant que ça se calme. Voilà. Donc c'était très très long.
Et c'est pas qu'on attend que tu nous dises que c'était pourrave. Ce qu'on attend, c'est que tu puisses dire ce que tu as envie de dire, comme on te disait tout à l'heure hors antenne, parce que non, ça va pas faire peur aux mamans. C'est bien d'être informé sur ce genre de sujet et tu as le droit de parler et de dire ce que tu ressens. Mmh. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui, à un moment donné, nous impactent de ne pas dire, de ne pas prononcer les choses que l'on ressent. Et tout ce que l'on réprime s'imprime. Juste pour citer Carl Jung, ça peut être intéressant.
Et puis ça permet aussi d'entendre des témoignages comme le tien, Audrey. Ça va permettre aussi à d'autres mamans de se sentir légitimes dans leurs difficultés malgré qu'elles soient très heureuses d'être maman. Enfin, c'est pas parce qu'on dit que c'est difficile qu'on est malheureuse d'être maman, non, au contraire, ça n'a rien à voir.
Ouais. Exactement.
Mais c'est vrai que tu vois, c'était dur, mais j'ai jamais eu non plus le sentiment de me dire waouh, je regrette d'être devenue maman ou quoi, parce que c'est vrai que malheureusement, j'ai personne dans mon entourage qui a eu ces sentiments, et pour le coup, j'ai jamais eu ce sentiment, mais c'était effectivement, des fois, je disais à mon compagnon, genre, on va jamais s'en sortir, on voyait jamais le bout du tunnel. Parce qu'après, il y a eu aussi découvert qu'il était en manque de fer, du coup, donc ça jouait sur son alimentation, sur son sommeil.
Tu peux nous
demi-heure la nuit, hein. Donc c'était très très dur de tenir.
Tu peux nous en dire un petit peu plus justement par rapport à est-ce que tu t'es renseigné un peu sur les impacts de la carence de fer? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je pense que ça pourrait aider aussi d'autres mamans.
C'était déjà très. On a dû aller voir un médecin spécialiste pour qu'il fasse une prise de sang de fer parce que les autres médecins n'ont jamais voulu aller chercher plus loin. Quand on le disait, il se réveille énormément la nuit. Enfin, vraiment, toutes les demi-heures, c'était pas abusé. Hein. C'était vraiment toutes les demi-heures, 45 minutes grand max, toutes les nuits. Et en fait, à un moment, il arrêtait de prendre du poids, il mangeait pas. Donc, c'était là où ils ont commencé à aller chercher. On a dû aller voir un médecin spécialiste du sommeil pour qu'il nous dise, on va faire une recherche de ferritine. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, il était très, très bas en fer. Et du jour où il a commencé à être complémenté, on a vu la différence sur son sommeil et sur son appétit. C'est impressionnant.
Ok. Donc les mamans, si vos bébés ont des difficultés à manger, qu'ils perdent du poids, qu'ils ont des difficultés à dormir ou qu'ils ont juste un des trois, hein, pas forcément obligé d'avoir les trois en même temps, n'hésitez pas à demander une prise de sang à votre médecin parce que l'impact de la carence en fer, elle est énorme sur les tout-petits.
Et il me semble avoir retenu ça de Claire Leblanc, qui est spécialiste sommeil
oui,
aussi, bonne nuit mon
qu'on
petit.
Qu'on connaît bien.
Voilà, qui disait que si votre enfant va mettre de la terre ou va mettre spécifiquement même du sable,
de l'argile, des choses
comme ça, ou même vous, si ça vous arrive lorsque vous êtes enceinte d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir ce genre d'envie où il y a des femmes qui ont envie de manger de la craie, c'est qu'il y a peut-être une carence en fer derrière et que ça peut être intéressant d'aller voir. Donc voilà, moi j'avais appris ça aussi au détour d'une conversation avec elle. Et je trouvais que c'était important quand même de pouvoir le préciser, que ce genre de choses, on pouvait le repérer. Alors quand ils sont vraiment tout petits, bien sûr que non, mais un peu plus tard, vers un an ou deux, ça peut être intéressant de voir ça.
Et je pense que c'est hyper important, c'est de s'écouter aussi en tant que maman. Parce que si nous, on ne se serait pas écouté en tant que parent, en fait, on aurait laissé notre fils comme ça et on aurait juste subi. Alors que là, ce médecin, il ne nous a pas écouté, c'est pas grave, on va aller voir un autre médecin. On a vu énormément de médecins. C'était épuisant, mais vraiment, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que finalement, c'était là la finalité. Ce n'était pas dans nos têtes, il avait bien quelque chose. Donc vraiment, en tout cas, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est vraiment de s'écouter et de c'est pas grave, s'il y a un médecin qui n'écoute pas, on va en voir un autre et encore un autre et encore un autre jusqu'à trouver celui qui va être là et qui va écouter et qui va aller creuser. Parce que je pense que pour le coup, mon instinct m'a vraiment beaucoup aidée sur cette situation, en fait. Je pense que si j'avais pas eu l'instinct de me dire non, mais il y a vraiment quelque chose, enfin, je connais mon bébé, ça aurait été pire, l'impact sur mon moral, sur la vie de famille aussi, parce que c'est dur. Après, avec le conjoint aussi, on est tous fatigués et la communication, ça devient compliqué. Mais heureusement qu'on s'est écouté et que finalement, on a continué à chercher parce que ça a duré 16 mois parce qu'on a dû voir énormément de professionnels jusqu'à trouver ceux qui nous écoutent et qui ont été creusés plus loin. Et à partir du moment où on a eu ces personnes-là qui nous ont écoutés, qui n'ont pas minimisé ce qu'on leur ramenait, ben on a vu la différence. Ben déjà, nous aussi, ça nous soulage. Et on a vu la différence sur notre fils aussi. C'était impressionnant de voir en fait, les progrès qu'il y a eu.
Moi, ce que je trouve incroyable, c'est dans tous les témoignages qu'on reçoit maintenant, c'est à quel point on ne croit pas les parents.
En fait, on est
à quel point il y a ce côté d'infantilisation, mais presque aussi de ne pas les écouter, de ne pas les entendre comme s'ils n'étaient pas responsables de leurs enfants. Or, légalement, déjà, ils sont responsables de leurs enfants et de comment est-ce qu'ils peuvent les nourrir et compagnie, matériellement et autres, et émotionnellement aussi. Et du coup, ce côté, de ce que je retrouve aussi chez mes patients, c'est de ne jamais être cru lorsqu'ils ressentent quelque chose, comme si le ressenti était quelque chose qui était de l'ordre de, je sais pas, de l'ésotérique ou quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Or, l'émotionnel, ça, c'est quelque chose qui existe. L'émotionnel va driver une partie de notre cerveau. C'est parce que nous avons des émotions, c'est parce que nous ressentons des choses, c'est parce que nous avons des sentiments aussi. Mais que du coup, à un moment donné, on va agir et avoir tel ou tel comportement. Donc moi, je trouve ça assez... incroyable que du coup des parents qui arrivent, qui sont désarçonnés, qui ne savent pas, parce que forcément c'est les premiers ou c'est la première fois que ça arrive, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs grossesses, plusieurs enfants, et là il y en a un qui va mal et on ne sait pas comment réagir. Bon, déjà parce qu'il n'y a pas d'école de parents, il n'y a pas la même transmission à la base, il n'y a plus le même noyau aussi dur familial de transmission intrinsèque qu'on pouvait avoir avant, et donc là maintenant ils arrivent pour pouvoir demander des choses et en fait on diminue, on laisse aller, on se dit non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et on attend qu'il y ait quelque chose de grave. Et ça, dans tous les domaines, en fait. Et j'ai l'impression que ça arrive aussi quand on écoute la parole d'un enfant, quand on écoute la parole d'une femme, quand on écoute la parole d'un homme à qui il arrive quelque chose et que véritablement... En fait, j'ai l'impression qu'il y a, de manière générale, un mépris et une forme de violence faite envers l'être humain de ne pas vouloir entendre ce qu'il a à dire.
Ouais. Alors là, on généralise un petit peu, mais voilà, Audrey nous l'a dit qu'ils ont fini par réussir à se faire entendre. Mais
De manière générale. C'était sur un tableau général.
Il y a quand même des médecins qui sont à l'écoute. Et si jamais vous êtes confronté à un médecin qui n'est pas à l'écoute, comme disait Audrey, soit vous changez, ou alors apportez vos informations et vos recherches en disant, bah voilà, moi je suis tombée là-dessus, ça ressemble complètement à mon fils à un moment donné, pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi, voilà. Pourquoi moi j'ai réussi à faire ces recherches-là et que depuis que je vous en parle, on n'en avait pas parlé. N'hésitez pas, parce que les médecins, quand ils voient que vous êtes renseignés et documentés, souvent, ils changent de posture.
Oui, puis après, ils sont aussi censés apporter un maximum d'informations, mais je ne critiquais pas les médecins là dans ce que je disais. Je disais simplement, de manière générale, qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre l'être humain.
Oui.
Dans notre société occidentale, ça peut être difficile d'entendre ce qu'il a à dire, que ce soit homme, femme, mère, enfant ou quoi que ce soit. On peut avoir du mal à entendre l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir cette difficulté ? Parce que ça crée, là on le voit, ça fait depuis un petit moment qu'on exerce, mais aussi qu'on fait cette émission, et qu'on entend régulièrement des mamans ou des papas qui vont dire « non, on n'a pas été entendu ». Et pas que par le corps médical, enfin je veux dire...
Oui, même par la famille,
c'est pas
l'apanage société,
du corps médical de ne pas écouter d'ailleurs.
Après, je pense qu'il y a un gros manque de temps en règle générale. Alors déjà, pour revenir au médecin, déjà en un quart d'heure, enfin une demi-heure on va dire pour les tout-petits, en une demi-heure en fait on n'a pas le temps de tout explorer. Donc eux, ils se concentrent sur le médical et sur leurs compétences médicales. Mais ils vont pas prendre le temps d'aller explorer ailleurs. Mais même en règle générale, en fait, on n'a pas le temps. On est tellement surchargé par la société, par le boulot, par la charge mentale, par le rythme, enfin voilà, par tout ça, qu'on prend plus le temps, en fait.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses, André, de ça ?
Déjà, ça a fait résonance avec ce qu'Elodie a dit, parce que mon fils, pour qu'on sache que c'est un RGO, en fait, le médecin pensait qu'il était juste enrhumé parce qu'il avait toujours le nez encombré, il toussait, il s'étouffait. Jusqu'au jour où moi j'ai relevé tous les points et je lui ai dit, il y a ça, 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 je pense que c'est un RGO. Et c'est là où elle a dit, ah oui, effectivement, ça y ressemble. et où elle a mis un traitement en place. Donc, effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter, comme a dit Elodie, à relever les points et vraiment les amener tels quels au médecin pour qu'il puisse avoir tous les points, parce que c'est vrai qu'ils sont très centrés sur le médical et par faute de temps, de toute façon. Et je suis d'accord aussi avec le fait de l'écoute en général. On est tellement dans notre quotidien, je pense que on n'a pas forcément le temps d'écouter, ou on ne prend pas le temps d'écouter ce que les autres ont amené. Et surtout, quand on nous amène quelque chose, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on a tout le temps envie de nous apporter des solutions, alors que des fois, ce n'est pas ce qu'on cherche. Moi, je l'ai vu même avec mon conjoint. La nuit, j'étais épuisée parce que mon fils se réveillait énormément et il était allaité, donc il se rendormait qu'au sein. C'est la seule chose qui le soulageait. Et du coup, à chaque fois, la solution qu'on me disait, c'était arrête l'allaitement, alors que moi, je ne voulais pas. J'y tenais à cet allaitement. Et en fait, c'est la seule solution qu'on m'a amenée à chaque fois. Et au bout d'un moment, en fait, on n'ose plus parler de ce qu'on ressent parce qu'on se dit, on va encore me dire arrête ça, alors que ce n'est pas la solution.
Parce que finalement.
Je cherche pas de solution, je cherche juste à ce qu'on me dise, ouais, je sais que c'est dur et ça va passer, ou je suis avec toi. Enfin, juste poser des mots, en fait, sur ce qu'on ressent et dire c'est légitime et je comprends, même si on comprend pas. Ouais. Le dire, déjà, c'est, je pense que ça fait quand même la différence.
Et après, on peut aussi demander, si vous êtes confronté à une maman qui est là à dire ce qui va pas et à vous faire part, justement, à se livrer à vous, lui demander de quoi as-tu besoin, qu'est-ce que tu attends de moi là.
Oui, c'est ça. Et puis, en même temps, sur l'allaitement, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent aussi là-dedans, hein, sur l'allaitement. Quand on voit certaines photos d'époque où toutes les femmes pouvaient allaiter, et puis maintenant on allaite de moins en moins, mais ça revient, mais on sait plus exactement comment faire parce qu'il y a aussi eu cette coupure de transmission. Et on va dire c'est l'allaitement. Mais non, pas tout le temps, en fait. Et puis, des fois, quand on nous répond c'est l'allaitement, c'est peut-être parce que ça dérange l'allaitement.
Ouais.
Après, pour revenir sur le côté des médecins et leur apporter des arguments, des choses comme ça, je pense que la peur principale qu'il pourrait y avoir, c'est d'être calife à la place du calife et de se dire, du coup, on va croire que je me prends pour un médecin. Je pense pas. Je pense que ça fait partie des premières choses que, en tant que citoyen français, on est amené à faire, c'est-à-dire se renseigner, avoir un esprit critique et essayer d'aller chercher par nous-mêmes aussi les informations. Et après, il y a des personnes qui sont ultra spécialisées, qui ont fait des études et des années d'études pour pouvoir vérifier tout ce qui est apporté. Donc, on va voir un spécialiste, on va voir un professionnel du domaine parce que c'est lui qui sait. En définitive, enlever les choses qui sont peut-être superflues ou réorienter et trouver la bonne direction. Mais ça n'empêche pas que faire des recherches, ça fait pas de mal. Vous n'êtes pas en train de poser des diagnostics, vous n'êtes pas médecin. Et ça, je pense que ça fait partie des choses où faut pas avoir peur de ça. Et d'ailleurs, un médecin, si vous venez lui poser la question, je pense qu'il va juste arriver avec, la personne arrive quand même avec de l'humilité. Enfin, ouais. Je veux dire, on n'arrive pas en disant, écoute, j'ai fait ton boulot, c'était sympa. Non, ça n'a strictement rien à voir.
Vous apportez juste une piste à explorer. Ça me fait un peu penser à quelque chose que j'ai vécu avec ma première qui nous a fait une poussée d'eczéma à 18 mois. Ça a duré pendant, je ne sais plus exactement, dans ma tête, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, donc je serais incapable de dire combien de temps ça a duré. Le premier médecin que j'ai vu traitait une mycose, m'a dit c'est une mycose, on va traiter une mycose. Ok, très bien, je fais confiance, je fais le traitement de la mycose. Je retourne la voir. Mais je lui dis, excusez-moi, mais le traitement ne passe pas. Enfin, la peau, il faut faire quelque chose. Là, elle n'en peut plus. Enfin, ça la gratte la nuit, elle se réveille. Enfin, non, continuez le traitement, c'est une mycose. Ok, très bien, on va continuer, pas de souci. Je vois un autre médecin en urgence pour un autre problème. Et puis, il voit donc cette plaque qui était située en plus au niveau du siège. Donc, catastrophe. Et qui me dit, ah là, mais qu'est-ce que c'est et tout. Donc, je lui dis, écoutez, ça fait des semaines qu'on traite une mycose, ça passe pas. Ok, très bien, testez cet auto-traitement. Ok, très bien, on va tester. Et jusqu'au jour, elle nous a fait faire nuit blanche et j'en ai eu marre. Donc, j'ai rappelé mon médecin. Par chance, je dis bien par chance, elle n'était pas dispo. La secrétaire m'a mis avec sa collègue qui travaillait dans le même cabinet. Et là, sa collègue me dit, mais je ne comprends pas, si le traitement de la mycose ne passe pas, c'est que c'est pas une mycose, en fait. C'est sûrement de l'eczéma. Je dis, mais écoutez, je l'ai évoqué à un médecin. On m'a dit que c'était pas possible d'avoir de l'eczéma à cet endroit-là. Elle me dit, si, de l'eczéma, on peut en avoir n'importe où. Donc, elle m'a dit, on va traiter de l'eczéma et on verra en fonction de si, elle m'a dit, si vous voyez que la cortisone fait effet, c'est que c'est de l'eczéma et voilà, on continue le traitement. Si vous voyez que d'ici quelques jours, il n'y a pas d'amélioration, vous me la ramenez, on fera des prélèvements et on ira chercher qu'est-ce que c'est. Et ben, c'était de l'eczéma. Donc, il a fallu qu'on voie 3 médecins différents pour comprendre que ma fille faisait de l'eczéma et non une mycose. Donc voilà, la petite expérience que je voulais vous partager.
Intense. Ouais. On sent que tu le revis encore
aujourd'hui. En fait, ça reste pour moi un traumatisme, hein, vraiment, parce que c'était de l'eczéma lié à une allergie au lait, justement. Et aujourd'hui, je suis très sensible à cette allergie-là. J'en garde des traces.
Et toi, du coup, Audrey, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, du coup, après tous ces épisodes qui ont quand même duré, tu nous disais 16 mois, comment est-ce que tu te sens, toi, aujourd'hui, par rapport à tout ça? Est-ce que tu te sens un peu plus ancrée, à l'aise? Est-ce que tu as pris position en tant que maman, pour affirmer ton point de vue? Comment ça se passe?
Ouais. En fait, quand mon fils a commencé à aller mieux, au bout des 16 mois, c'est moi qui suis tombée en dépression postpartum. Je pense que j'ai
l'épuisement.
Je pense que j'ai tellement tiré sur la corde qu'en fait, dès que ça a été mieux,
t'as lâché. Tu t'es autorisée à lâcher.
Ouais, je me suis levée un matin et je tenais pas sur mes jambes, en fait. Vraiment, j'avais des vertiges et tout, et en fait, ça a été très vite après. Enfin voilà, mes journées à pleurer et à me dire, mais en fait, c'est un enfer maintenant que mon fils va mieux. C'est moi qui va pas bien. Mais heureusement, pareil, j'ai eu un médecin qui était à l'écoute et du coup qui m'a tout de suite mis en arrêt. Enfin, vraiment, j'ai pu me recentrer sur moi. Après, je suis quelqu'un qui... Voilà. Même si ça ne va pas, j'aime pas rester comme ça. Donc, je fais tout pour aller mieux. Donc, j'ai pu en parler aux personnes que je savais qu'elles allaient être à l'écoute, etc. Et j'ai pu être entourée pour le coup et ça m'a vraiment aidée. Et après, un travail, c'était long. Hein, mais maintenant, ça va. Je me dis, bon, ça y est, on a passé la période compliquée et là, c'est cool d'être parent finalement. Et puis c'est l'âge où ils grandissent aussi, donc c'est différent. Mais aujourd'hui, ça va, j'ai pu prendre confiance et je sais que là, si demain j'ai un autre enfant, bah, je ne laisserai pas passer autant de mois. Je me battrai plus rapidement aussi pour me faire écouter, pour me faire entendre. Ça va permettre de prendre confiance en fait aussi en tant que parent quand on a vécu une expérience comme ça. En tout cas, moi, ça m'a permis de prendre confiance et de me dire. En fait, ton instinct, il est légitime et écoute-toi.
Je crois que c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire.
Si j'avais d'autres enfants, je m'écouterais et je ne lâcherais pas, en fait.
C'est exactement ce que tu viens de dire, qui est je trouve... Alors, tout était très important, hein, qu'on soit bien d'accord, mais la dernière partie, c'est je pense que je prendrai position et je ferai les choses autrement et tout ça. Parce que ce que j'entends, c'est le côté de se battre. Et souvent, se battre est associé à la volonté et compagnie. Or, quand on est en dépression, la volonté et se battre, ça n'existe pas. Il y a une forme d'apathie et tout dépend après de notre expérience et notre vécu. C'est pas forcément aussi facile que ça. Et je pense que ça, tu l'as ressenti aussi. Mais d'avoir confiance, de faire ce travail en amont. Et moi, j'en appelle aussi aux parents qui ont envie d'avoir des enfants, qui n'ont pas encore d'enfants. Mais de faire ce travail en préconception, de travailler sur vos propres blessures, de travailler sur vos propres besoins pour pouvoir vous sentir ancré et être véritablement la personne que vous avez envie d'être et besoin d'être aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a des choses qui sont à travailler. Et donc, pour pas avoir à vous battre après contre plein de vagues, de tourbillons, de tout, c'est parce que la vie, ok, peut être difficile, mais c'est pas une lutte, en fait. C'est pas une lutte. Donc, pour pas être dans la lutte, apprivoisez les choses. Apprenez à ne pas réagir tout de suite, à être dans une forme d'immaturité émotionnelle aussi qui peut être difficile. Et quand je parle d'immaturité, faut pas le prendre de manière négative. C'est juste, à un moment donné, c'est compliqué quand on a peut-être reçu certaines formes de violence ou de choses comme ça, de pouvoir aussi agir pour son propre bien-être. Donc, tout ce travail-là peut se faire en amont et c'est ultra important de pouvoir l'envisager à partir du moment où on a des enfants. On va penser à l'alimentation, on va penser au sommeil, on va passer à toutes ces choses-là. Mais votre santé mentale, elle est aussi importante. Ce qui veut dire, comme c'est un tourbillon émotionnel d'envisager d'avoir des enfants ou même d'être enceinte et après, et que c'est un marathon finalement... Essayez d'envisager aussi de juste d'échanger, même pour voir, même si c'est juste un rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale, juste d'échanger un tout petit peu, ouais. Ou d'avoir une activité qui vous permette de vous sortir un petit peu de ce contexte-là et de pouvoir extérioriser et créer du lien, avoir un cercle. Comme tu nous disais, Audrey,
tu as été éloignée, toi, de pas mal de ta famille parce que tu étais dans le sud et que tu n'étais plus sur Paris. Ça peut être aussi intéressant de voir s'il n'y a pas dans les associations des cercles de mamans, des cercles déjà, même de personnes qui sont déjà mamans, alors vous êtes peut-être enceinte ou alors vous n'avez pas encore d'enfant, mais déjà d'envisager ce côté un petit peu, entre guillemets, communautaire, mais en tout cas de lien. Entre les individus. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il va falloir qu'on fasse une petite pause musicale.
Tout à fait. C'est ça. Merci, hein, Lucille.
Je m'arrête.
On se retrouve tout à l'heure.
À tout de suite.
Nous sommes de retour sur Macalade pour l'émission La Pause Maternelle et nous sommes avec Audrey qui est venue témoigner de sa maternité et de la complexité de la maternité. On t'écoute, Audrey.
Lucie disait juste avant de travailler la santé mentale et je pense que c'est vraiment moi ce qui m'a aidé aussi beaucoup pour aujourd'hui reprendre confiance, c'est travailler justement un peu mes traumatismes. Enfin, c'est un mot fort, mais... des traumas qu'on a, qu'on ne se rend pas forcément compte de quand on était plus jeune. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidée aussi à prendre confiance en tant que personne, mais en tant que maman aussi. Travailler tout ça, j'ai fait beaucoup d'hypnose et ça m'a beaucoup aidée à travailler tout ça, à prendre confiance et à être plus apaisée au quotidien finalement avec mon fils et avec moi-même aussi. On est plus indulgent avec soi-même et la maternité, elle est beaucoup plus légère quand on est indulgent avec soi-même aussi. On n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux. Et en fait, c'est déjà énorme. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'aide aujourd'hui, même quand je suis à bout et que je perds patience, je me dis, aujourd'hui c'est comme ça et c'est pas grave, demain ce sera mieux. Et je pense que vraiment l'indulgence quand on devient parent envers nous-mêmes, parce qu'on est très exigeant envers nous-mêmes, mais en fait, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, on apprend tous et je pense que c'est vraiment. En tout cas, moi, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de me relativiser comme ça et de me dire, voilà, il y a des jours où ce sera moins bien, il y a des jours où ce sera mieux et c'est comme ça, je fais de mon mieux. Et mon fils, il a l'air de s'épanouir quand même malgré tout, donc c'est le plus important. Et moi, j'ai trouvé mon équilibre aussi en tant que maman, en tant que femme. Et je pense que c'est le plus important au final.
Oui, et puis n'oublions pas que les louper, c'est ce qui nous fait apprendre aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est parce qu'il y a un loupé, derrière, on peut rattraper, on peut réparer. C'est pas parce qu'on va prendre l'exemple d'une maman qui crie sur son enfant un soir parce qu'elle est fatiguée. Derrière, prenez un temps, en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment, d'en discuter avec lui. S'il est trop petit, voilà, passez un moment de qualité, de câlin, d'histoire, avec lui pour réparer ce moment où vous avez eu ce raté, vous avez crié parce que vous étiez épuisé, et verbaliser les choses. Verbaliser, ça va aussi leur apprendre que, en fait, quand j'ai un comportement qui va pas, de verbaliser, d'exprimer ce que j'ai ressenti, en fait, ça aide. Donc, les loupés font partie de l'apprentissage.
Et même, je pense qu'il faudrait essayer d'arrêter avec loupé, raté, échec, on n'est pas parfait. Arrêtons deux secondes de nous juger comme ça, de manière sempiternelle, c'est pas possible. On est des êtres humains, donc en fait, on va faire des choses où on va tomber. On a commencé par tomber. On a commencé par naître sans avoir tout le kit adéquat pour pouvoir ne serait-ce que marcher, se nourrir ou quoi que ce soit. Donc, quelle perfection c'est ça ? J'avais inventé la dernière fois le mot perfectude, mais il n'est pas loin non plus. Mais parce que perfectude veut dire que tu as peut-être encore des aptitudes pour essayer de te parfaire. Voilà, c'est-à-dire continuer à apprendre. Et je pense que qu'est-ce qui pourrait être plus sympa que de se dire « En fait, je vais continuer à apprendre. En fait, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. » Est-ce qu'on peut juste se dire ça ? « Je suis en train d'apprendre. Et j'apprendrai toute ma vie. Et jusqu'à la fin, j'apprendrai. » C'est quand même génial de se dire qu'on a ça. En plus, on a un cerveau qui est génial avec la plasticité cérébrale. Mmh. On apprend véritablement jusqu'à la fin de notre vie. Nos enfants nous apprennent quelque chose. Nous les accompagnons et nous leur apprenons aussi des choses. Tous les liens qu'on fait autour de nous nous permettent ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous juger de manière négative et péjorative en disant que vous avez loupé, que vous avez raté, que c'est un échec. Oh, ben tant mieux, c'est super. Vous avez loupé, vous avez raté, c'est un échec. Eh ben allez, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que du coup, on se flagelle ou est-ce qu'on continue ? Et pas continuer avec à force de volonté. Continuer en se disant, je comprends de plus en plus qui je suis et j'apprends à être. Pas grave, c'est bien, hein.
C'est un exercice, en fait.
C'est un exercice quotidien de se réveiller déjà le matin en essayant de se dire, eh ben chouette, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui ? C'est une nouveauté. Je vais encore apprendre des choses aujourd'hui. Peut-être que ce sera la dernière journée, mais j'aurai appris quelque chose de cette journée. Juste le voir avec ce... Mais on parle du moment présent, on parle de plein de choses. Dans les religions, ils vont parler d'autres choses aussi. Enfin, juste à un moment donné, si on met tout l'assemblage de qu'est-ce que c'est, et en psychologie aussi, on en parle, c'est juste d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, pour nous, et qu'est-ce qu'on aurait envie de mener. À partir du moment où on se connaît, qu'on sort de nos manques, de nos désirs, de nos besoins, qu'on les connaît véritablement, et qu'on n'en a pas honte, je pense que c'est important. Quand on parle de louper et de rater, c'est peut-être qu'on a un petit peu honte de soi. Quand on n'a plus honte d'être soi-même, eh ben, y a des envies qui apparaissent. Et ces envies-là, elles font toujours, toujours, toujours du bien.
Et pour en revenir au trauma dont on a parlé tout à l'heure, et puis on finira là-dessus avec un petit dernier mot d'Audrey, si tu le souhaites, c'est que, Lucie, tout à l'heure, tu parlais de travailler nos traumas en préconception. Et je te rejoins là-dessus dans le sens où, de toute façon, si vous ne travaillez pas en préconception, en fait, tôt ou tard, ça va vous rattraper et ça risque d'être un peu plus difficile, honnêtement. Enfin, à mon sens. Pour moi, je pense que, parce qu'en fait, vous avez... Il n'y a plus que vous à s'occuper. Il y a aussi ce petit être qui demande quand même beaucoup, mine de rien. Après, en fonction des enfants, mais... Et donc, du coup, nos traumas sont beaucoup plus difficiles, je trouve, à travailler une fois qu'on est maman. Et ça rattrape soit avec la dépression du postpartum ou le corps qui dit stop, en fait, qui met un stop, la maladie.
Du coup, moi, je trouve que c'est... Enfin, je ne vais pas dire que c'est génial, bon, parce que c'est aussi ma spécialité, le psychotrauma. Mais en fait, je pense que c'est révélateur. Oui. Je pense que l'enfant révèle des choses. Oui. Et que ce qu'on considère comme plus dur, c'est la peur de la souffrance qu'on peut avoir derrière. Mais en réalité, c'est peut-être pile poil le moment où c'est important de travailler ça, parce que là, il n'y a plus de barrière. Justement, corps lâche. Justement, l'esprit lâche. Justement, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler. Avant, il y a beaucoup de résistance.
Oui, mais ça peut être bien plus violent quand il y a un enfant, je trouve.
Est-ce que c'est violent pour l'enfant ? Est-ce que c'est violent pour le parent ?
Violent pour nous, pour les parents.
Pour la question. Ah oui, mais alors du coup, ça veut dire que... C'est pareil, se flageller ou alors s'apprivoiser. C'est pas forcément violent, c'est difficile.
Ouais, c'est difficile.
Mais en réalité, le choix est simple.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses, Audrey, de tout ça, de notre méli-mélo rhétorique ?
Je pense que travailler en amont, ce serait plus simple, entre guillemets. Parce qu'effectivement, quand il y a le bébé qui est là, des fois, on se les reprend en pleine face. On n'a pas conscience qu'ils sont là et finalement, ça ajoute dans notre maternité. Je l'aurais su, je l'aurais fait avant d'avoir mon fils, parce que je savais que j'en avais qui étaient là, mais je pensais pas que ça impacterait autant ma maternité et ma perception des choses.
Ouais, c'est vrai. Il y a cette partie là où on sait pas, mais tu vois, j'allais te dire oui, mais en même temps on ne sait pas tant que l'enfant n'est pas là aussi. Donc travailler en amont sur ce qu'on peut savoir, c'est une chose, en sachant qu'à chaque fois que vous allez travailler quelque chose, vous allez enlever une couche et qu'il va y avoir une deuxième.
Oui.
Voilà, c'est ça vrai. C'est mon petit pack Kinder Surprise. Juste, vous attendez pas à ce que ça fasse youpi youpla, ça va faire youpi youpla, hopla hopla, ça va faire des vagues de toute façon. Et après, quand le bébé va se présenter, il va y avoir d'autres vagues. Mais si vous avez été habitué à être accompagné et à vous accompagner avec douceur, avec beaucoup d'amour aussi, on n'en parle pas souvent, mais je parle beaucoup de liens, mais je parle pas beaucoup d'amour, mais vous accompagner avec beaucoup, beaucoup d'amour et d'écoute envers vous-même, eh ben, ça aide effectivement à ce que ça soit un peu moins difficile. Mais tant que votre bébé n'est pas là, vous ne pouvez pas non plus savoir comment ça se présentera, parce que c'est lui aussi qui va vous présenter certaines facettes, faire ressortir certaines choses. Mais travailler en amont sur ce que vous savez, c'est déjà important pour commencer à être habitué, à être accompagné là-dessus et à vous accompagner, à développer les outils pour.
Tout à fait. Nous sommes sur la fin de la pause maternelle.
Oui.
Nous nous retrouvons comme chaque mois, le premier lundi à 10h pour un nouveau témoignage. Merci beaucoup Audrey d'être venue témoigner avec des sujets qui sont souvent mis sous silence, mine de rien, comme le burn-out. Parce que souvent, il y a une espèce de honte derrière le burn-out, alors qu'il y a rien de honteux à dire stop, je n'y arrive plus, et de se faire aider. Et sachant, surtout en sachant que, mine de rien, le burn-out peut avoir de lourdes conséquences. N'oublions pas, je tiens à rappeler ce chiffre, cette information qui est dramatique, je trouve, c'est que le suicide maternel en postpartum est devenu la première cause de mortalité durant le postpartum. Donc voilà, prenez soin de vous, les mamans. Vous n'êtes pas seule.
Prenez soin de vous, les papas aussi.
Les papas aussi, voilà, oui, aussi. On oublie trop souvent les papas. Mais prenez soin de vous, les parents, on dira même. Et puis, sinon, si tu souhaites venir aussi partager ton vécu avec nous au micro de la pause maternelle, tu es le bienvenu et nous t'invitons à écrire à lapausematernelle@outlook.fr. En attendant, prenez soin de vous et au mois prochain.
Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
La pause maternelle.